Concentration et paupérisation. La concurrence oppose le capital au capital, le travail au travail, la propriété foncière à la propriété foncière, et chacun de ces éléments aux deux autres. Dans cette lutte, le plus fort l'emporte. Il nous faudra examiner la force des combattants si nous voulons prévoir les résultats. Tout d'abord, la propriété foncière et le capital sont plus forts que le travail. L'ouvrier, en effet, doit travailler pour vivre. Le propriétaire foncier, au contraire, a ses rentes, le capitaliste, ses intérêts. En cas de malheur, ils peuvent subsister, l'un mangeant son capital, l'autre sa propriété capitalisée. Il s'ensuit que le travail ne reçoit que l'indispensable, les seuls moyens de subsistance, tandis que la plus grande partie des produits se répartit entre le capital et la propriété foncière. Dans le marché, l'ouvrier le plus fort élimine le plus faible. La grande propriété foncière, le grand capital, en exclut la petite propriété, le petit capital. C'est ce que démontre la pratique. On sait quels avantages le grand fabricant et le grand commerçant ont sur le possesseur d'un seul, entre guillemets, « jour » de terrain. La conséquence est que, déjà, dans les conditions ordinaires, le grand capital et la grande propriété foncière engloutissent petit capital et petite propriété, en vertu du droit du plus fort. La propriété se concentre. S'il survient une crise agricole ou une crise commerciale, le mouvement s'accélère. La grande propriété s'accroît d'une façon incontestablement plus rapide que la petite. Les frais à déduire du revenu sont bien moindres. Cette concentration de la propriété est une loi immanente à la propriété privée. Elle lui est aussi immanente que les autres. Les classes moyennes sont destinées à disparaître chaque jour davantage, jusqu'à ce que le monde se divise en millionnaires et en pauvres, en grands propriétaires fonciers et en pauvres journaliers. Les lois, les partages de la propriété foncière, la dispersion éventuelle du capital n'y peuvent rien. Ce résultat doit se produire. Il se produira. Si une transformation totale des conditions sociales, une fusion des intérêts antagoniques, une suppression de la propriété individuelle ne vient pas le prévenir. La libre concurrence, ce mot d'ordre des économistes du jour, est une impossibilité. Le monopole avait du moins l'intention, sinon la faculté, de protéger le consommateur contre la tromperie. La suppression du monopole laisse à la tromperie pleine et entière liberté. Vous nous dites, la concurrence porte en elle-même le remède. Personne n'achètera des objets de mauvaise qualité. Chacun de nous devrait donc être un connaisseur en chaque article. C'est impossible. Il s'ensuit que le monopole est nécessaire pour beaucoup d'objets. Les pharmaciens, etc., doivent jouir d'un monopole. La marchandise la plus importante, l'argent précisément, ne peut se passer du monopole. Chaque fois que le moyen de circulation a cessé d'être un monopole d'État, une crise commerciale s'est produite. Les économistes anglais, le docteur Wade entre autres, reconnaissent la nécessité de cette institution. Mais le monopole lui-même ne protège pas contre la fausse monnaie. Que l'on pose comme on veut la question sous chacune de ses faces, la difficulté subsiste toujours. Le monopole crée la libre concurrence, et celle-ci amène le monopole. Il faut donc que tous deux tombent. Il faut supprimer ces difficultés en abolissant le principe qui les fait naître. La concurrence a pénétré toutes nos conditions d'existence. Elle a poussé à son plus haut degré l'asservissement réciproque où se tiennent les hommes. Elle est la grande force motrice qui tient toujours en activité notre ordre, ou plutôt notre désordre social, vieux et débile. Mais chaque nouvel effort consomme une partie de ses forces déclinantes. La concurrence gouverne le progrès quantitatif de l'humanité. Elle gouverne également son progrès moral. Quiconque a quelque peu étudié la statistique des crimes connaît la régularité particulière avec laquelle le crime progresse tous les ans, avec laquelle certaines causes amènent certains crimes. Partout, l'extension du système de la fabrique a pour conséquence un accroissement des délits. Dans les grandes villes, ou dans un district donné, on peut prédire tous les ans, avec une exactitude suffisante, comme cela se fait en Angleterre, le nombre des emprisonnements, des actes criminels, et même le nombre des meurtres, des effractions, des vols de peu d'importance, etc. Cette régularité démontre que le crime, lui aussi, est régi par la concurrence. La société crée une demande de crime à laquelle correspond une offre appropriée. Le vide creusé par l'emprisonnement, la relégation ou les exécutions est immédiatement comblé, de même que nous avons vu de nouveaux arrivants combler tout vide dans la population. En d'autres termes, le crime pèse sur les moyens de punition comme la population sur les moyens d'emploi. Je laisse à mes lecteurs le soin de décider si, dans ces conditions et abstractions faites d'autres considérations, il est légitime de punir le crime. En ce qui me concerne, la question est de prouver ici que la concurrence étend son action sur le domaine moral et de montrer jusqu'à quel degré la propriété privée a poussé la dégradation humaine. Dans la lutte que mènent le capital et le sol contre le travail, les deux premiers éléments jouissent d'un avantage supplémentaire. La science leur vient en aide, dans les conditions actuelles, elle se dresse contre le travail. Presque toujours, c'est la pénurie de la force de travail qui a donné lieu aux inventions mécaniques, en particulier aux machines à filer le coton. Chaque fois que le travail a été très demandé, une invention s'est produite qui, augmentant considérablement la force de travail, faisait baisser la demande du travail humain. L'histoire de l'Angleterre, de 1770 à nos jours, en est une preuve constante. La dernière grande invention dans l'industrie du tissage a eu pour cause la demande de travail et l'élévation du salaire. Elle a doublé le travail mécanique et par suite diminué de moitié le travail manuel. Elle a privé d'emploi la moitié des ouvriers et a baissé ainsi le salaire des autres. Elle a anéanti la révolte des travailleurs contre les fabricants. Elle a détruit les dernières forces avec lesquelles le travail soutenait sa lutte inégale contre le capital. L'économiste prétend, il est vrai, que le résultat final du machinisme est favorable à l'ouvrier. En rendant la production moins onéreuse, en ouvrant ainsi aux produits un marché plus vaste, la machine finit par donner de nouveau de l'occupation aux travailleurs sans emploi. C'est tout à fait exact. Seulement, l'économiste oublie ici que la production de la force de travail est régie par la concurrence, que la force de travail exerce une pression constante sur les moyens d'emploi. Il s'ensuit que, si ces avantages se produisent jamais, un nombre surabondant de travailleurs en concurrence compte sur ces avantages et les rendent donc illusoires. En revanche, les désavantages ne sont nullement illusoires. Une moitié des ouvriers se voit soudainement privée de ses moyens de subsistance, tandis que l'autre moitié voit tomber son salaire. L'économiste oublierait-il que les progrès de l'invention ne s'arrêtent pas et que l'inconvénient se perpétue ? L'économiste oublierait-il que grâce à la division du travail que notre civilisation a poussée à l'infini, un ouvrier ne peut vivre qu'à condition d'être employé à une machine déterminée, à un travail fragmentaire déterminé ? Que le travailleur adulte se trouve presque toujours dans l'impossibilité absolue de passer d'un mode d'emploi à un autre ? L'étude des effets du machinisme me conduirait à vous parler d'un autre sujet plus lointain encore. Il me faudrait examiner le système de la fabrique. Je n'ai ni le désir, ni le temps de le traiter ici. J'espère cependant avoir prochainement l'occasion d'exposer tout au long l'horrible immoralité de ce système et de démasquer l'affreuse hypocrisie des économistes qui y brillent de tout son éclat.